RFI 7h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et Marion Kazanov pour le journal. Bonjour Marion.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À Doha et à Washington, les efforts pour une trêve à Gaza.
Début des négociations hier au Qatar, le président américain lui fera pression sur Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qu'il reçoit tout à l'heure à Washington. Donald Trump qui remet ses droits de douane sur la table. Les pays qui n'ont pas trouvé d'accord se verront imposer ses taxes douanières dès le 1er août et en seront notifiés dès aujourd'hui. En France, la justice se prononce aujourd'hui sur le drame de la rue d'Aubagne, l'effondrement de deux immeubles insalubres en 2018 qui avait coûté la vie à 8 personnes. Et puis en fin de journal, un aperçu du premier album de Tyrique McDoll, nouveau grand nom et grande voix de la scène jazz.
Au Qatar, le début de négociations pour une trêve à Gaza.
La première session s'est achevée sans résultat il y a quelques heures. Manœuvre diplomatique donc à Doha, mais aussi à Washington, où le président américain s'apprête à recevoir aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En ligne avec nous de Jérusalem, Justine Fontaine. Justine, le président américain s'est voulu optimiste avant cette rencontre et dit avoir bon espoir qu'un accord soit trouvé cette semaine.
Oui Marion, bon nombre des otages restants vont sortir, c'est ce qu'a estimé le président américain hier. Benjamin Netanyahou, de son côté, avant de décoller pour Washington, a simplement dit que sa rencontre avec Donald Trump pouvait contribuer à faire avancer les choses. À Doha, par médiateur interposé, les deux délégations ont évoqué un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza et la libération par étapes de 10 otages vivants, ainsi que le retour des corps d'une partie de ceux qui sont décédés, sachant que 49 personnes en tout sont encore retenus là-bas depuis le 7 octobre. En échange de ça, Israël libérait des prisonniers palestiniens et retirerait ses soldats de Gaza. Mais c'est notamment sur ce point précis que les deux délégations ne sont pas d'accord. Le Hamas demande précisément des garanties pour que les combats ne reprennent pas à l'issue de la trêve. Et puis aussi que la distribution de l'aide humanitaire passe de nouveau par l'ONU et par des organisations internationales reconnues. De leur côté, les familles des otages regrettent que les discussions ne portent pas sur la libération de tous les otages lors de cette trêve.
Justine Fontaine en direct de Jérusalem. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur Gaza. Plus de 70 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. L'armée a aussi visé des cibles houthis au Yémen. Plusieurs frappes signalées notamment sur le port d'Odeida. Après ces frappes, Israël a dit avoir détecté deux missiles en provenance du Yémen cette nuit. Au Liban, le chef du Hezbollah balait toute capitulation face à Israël. Naïm Qassem s'exprimait hier à la veille de la visite d'un émissaire américain à Beyrouth. Le Hezbollah, dit Naïm Qassem, ne compte pas rendre les armes.
En Syrie, 7 mois après la chute de Bachar al-Assad, des voix de plus en plus pressantes pour obtenir la vérité sur les disparus de la dictature.
Plus de 100 000 personnes ont été portées disparues depuis 2011, selon le réseau syrien des droits de l'homme. Et pour la première fois depuis la chute du régime, une consultation officielle sur le sujet s'est tenue à Damas. Elle vise à définir le mandat de la future commission nationale qui sera chargé d'enquêter sur ces disparitions. Des consultations plus larges avaient déjà eu lieu ailleurs en Syrie dans le cadre du processus de justice transitionnelle, mais c'est à Damas que pour la première fois, des femmes ont pris la parole publiquement pour réclamer vérité, reconnaissance et justice. Reportage à Damas de Mohamed Erami.
Autour d'une grande table ronde dans un restaurant du vieux Damas, les voix longtemps étouffées se libèrent. Une à une, les mères de disparus prennent le micro. Larmes aux yeux, elles racontent l'attente, les illusions, les extorsions. Certaines, pour la première fois. Cyrine, enseignante de Deresor, est l'une d'entre elles.
Moi, ça fait 12 ans que je cherche désespérément mon mari et mon fils disparus après qu'ils aient été arrêtés par les anciennes autorités. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle d'eux et depuis la chute du régime, on n'a toujours pas de réponse.
D'autres femmes venues de la Ghouta racontent également des disparitions sous les anciennes autorités. Leurs enfants arrêtés à 15 ans, parfois simplement à cause d'un contact Facebook. La peur les a longtemps muselés. Lynn, 45 ans, raconte ce besoin de libération de la parole.
Moi, je suis au stade où j'éteins mon portable par réflexe, car j'ai l'impression qu'on va m'appeler à tout moment et m'arrêter. La peur que j'ai vécue sous les anciennes autorités, personne ne peut l'imaginer. Je suis traumatisée et j'ai l'impression qu'on va m'emprisonner à tout moment.
Le traumatisme est profond, mais aujourd'hui, ces femmes veulent des réponses, une reconnaissance officielle et des droits. Ces consultations marquent une première. Les victimes s'adressent publiquement à une autorité censée les représenter. Reste à voir si leurs voix seront réellement entendues. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Les marchés prêts à s'affoler de nouveau avec le retour des taxes douanières de Donald Trump.
Suspendu en avril, le temps d'ouvrir des négociations, ces droits de douane seront imposés dès le 1er août, jusqu'à 50% contre les pays qui n'auront pas trouvé d'accord avec Washington. Ils seront d'ailleurs notifiés par lettre à partir d'aujourd'hui, dit Donald Trump. Depuis deux mois, seuls deux pays, le Royaume-Uni et le Vietnam, ont négocié jusqu'au bout avec le Trésor américain. Karine Auton, tous les autres sont donc potentiellement exposés à ces taxes.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent s'est rappelé au bon souvenir du reste du monde hier. Il s'est plaint que les négociations avec les partenaires commerciaux de Washington n'avançaient pas assez vite. Mais il a affirmé que tout cela ne freinerait pas pour autant l'imposition des nouvelles taxes décidées par l'administration Trump. Dans le viseur de Washington, les 18 relations commerciales les plus importantes, celles qui représentent 95% du déficit commercial américain, Scott Bessent a affirmé rester confiant que des accords allaient se conclure ces prochains jours malgré une forte résistance. Sur la chaîne CBS, il a confié que la technique américaine de mise sous pression avait relativement bien fonctionné et il a d'ailleurs pris l'exemple de l'Union européenne qui tardait à venir à la table des négociations mais a accéléré les choses dès que Donald Trump a menacé de 50% d'augmentation des droits de douane. Réunis au Brésil, les 10 pays des BRICS ont eux exprimé leurs sérieuses préoccupations face à des droits de douane unilatéraux. Le président américain a menacé hier d'imposer 10% de droits de douane supplémentaires aux pays qui s'alignaient sur les BRICS. Karine Auton, New York RFI.
Les BRICS qui terminent leur sommet aujourd'hui à Rio, ils ont aussi réclamé un cessez-le-feu à Gaza, condamné les attaques militaires en Iran. Sur la guerre en Ukraine, l'organisation demande de la paix et condamne la mort de civils en Russie sans mentionner les victimes de l'autre côté de la frontière. L'Ukraine qui perd du terrain face à la Russie. Moscou a revendiqué hier la prise de deux localités, l'une dans la région de Donetsk dans l'est, l'autre dans la région de Kharkiv dans le nord-est. La Russie poursuit aussi ses bombardements sur l'Ukraine. Au moins 4 personnes ont été tuées, 32 autres blessées dans la nuit. On sera en direct de Kiev dans le journal de 6h, temps universel. La Pologne, de son côté, rétablit des contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Une décision prise pour lutter contre l'immigration illégale, a précisé hier le ministre de l'Intérieur. Varsovie reproche à Berlin de refouler sur son territoire des migrants souhaitant obtenir l'asile en Allemagne. Ces contrôles sont rétablis pour 30 jours, mais pourraient être prolongés.
RFI 6h08 à Alger. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a encore 2 jours pour se pourvoir en cassation.
Mais il ne devrait pas le faire, selon plusieurs sources. Le romancier de 80 ans, condamné à 5 ans de prison en Algérie pour atteinte à l'unité nationale, n'a pas bénéficié de grâce présidentielle ce week-end à l'occasion de la fête de l'indépendance. Un geste qu'espéraient pourtant les autorités françaises. Mais pour Brahim Oumansour, chercheur associé et directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'IRIS, cette absence de grâce présidentielle n'est finalement pas si surprenante.
Symboliquement, le gracier le jour de l'indépendance, alors que le chef d'inculpation s'est basé sur ses propos sur les frontières de l'Algérie liées à la colonisation, donc à l'indépendance aussi du pays. Donc symboliquement, ça aurait été contre-productif pour le pouvoir algérien. Mais en même temps, le message qui aurait été envoyé pour les Algériens, ça aurait été donc un message de capitulation face à la pression française. C'est pour cela que je pense, s'il y a espoir, même s'il est réduit, d'une libération future, ce serait dans un cadre différent, donc hors les fêtes nationales, par une grâce humanitaire ou un geste donc humanitaire, une grâce médicale, compte tenu de son âge, de son état de santé.
Brahim Oumansour, chercheur associé, directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'IRIS, propos recueillis par Pierre Firsion. Et le 5 juillet, à l'occasion de la fête de l'indépendance en Algérie, environ 6500 personnes ont bénéficié d'une grâce présidentielle.
En France, la justice se prononce aujourd'hui sur le drame de la rue d'Aubagne.
8 morts le 5 novembre 2018 après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille, dans le sud du pays. Cela avait relancé le débat sur l'habitat insalubre, sur les manquements des autorités. Le procès s'est tenu l'automne dernier. 16 personnes physiques ou morales sont poursuivies pour différents chefs d'accusation, notamment pour homicide involontaire et soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes. Laura Martel.
Le 5 novembre 2018, deux immeubles anciens du centre-ville de Marseille, situés rue d'Aubagne, s'écroulent. 8 personnes sont tuées. Lors du procès, les débats ont permis d'établir que les effondrements du numéro 63, alors inoccupé, et du numéro 65 étaient inéluctables vu l'état du bâti. Pourtant, aucune mise à l'abri des locataires du 65 n'avait été décidée et les travaux entrepris s'étaient avérés inefficaces, voire contre-productifs. Mais à qui en attribuer la responsabilité ? À l'issue de l'enquête, 4 prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal, un adjoint au maire de l'époque, l'architecte qui avait expertisé l'immeuble moins de 3 semaines avant son effondrement et 2 personnes morales, le syndic du 65 et le bailleur social propriétaire du 63. Mais les parties civiles, estimant ces poursuites incomplètes, avaient cité à comparaître une 12aine de personnes supplémentaires, dont certains copropriétaires. Lors du réquisitoire, le parquet estimait que la quasi-totalité de ces 16 mises en cause étaient coupables. Fustigeant les investisseurs du malheur, les procureurs ont notamment requis des peines de prison ferme contre l'ex-adjoint au maire et l'architecte. La plus lourde, 5 ans de prison dont 3 fermes, a été demandée contre un élu régional qui avait alors la double casquette de propriétaire et avocat du syndic. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe.
Précision signée Laura Martel. La décision devrait donc être rendue ce matin à partir de 8h, temps universel.
Allez, un peu de jazz pour refermer ce journal, Marion.
Avec un premier album très attendu, celui de l'américano-haïtien Tyreek McDoll. Il sort Open Up Your Senses, ouvrez vos sens en français. À 25 ans, il a déjà une voix bien reconnaissable, grave et envoûtante, un style qui rend hommage aux standards du jazz et à ses racines caribéennes. Vous allez l'entendre, Andréane, il a du coffre Tyreek McDoll, un aperçu avec Lisa Giroldini.
Those distant eyes that look at you.
C'est grâce au film d'animation La princesse et la grenouille que Tyreek McDoll découvre le jazz alors qu'il est encore un enfant. Une révélation marquante pour celui qui deviendra l'une des voix incontournables de la scène jazz new-yorkaise. Et son ascension devrait se poursuivre après cet album d'une grande maîtrise, nourri notamment par ses racines haïtiennes. Avec sa voix proche de celle de Gregory Porter, Tyreek McDoll reprend les standards d'Ella Fitzgerald ou encore de Louis Armstrong, avec un message à transmettre sur ce disque. Vivons en pleine conscience, élargissons nos horizons et prenons soin les uns des autres.
Precious energy, won't you flow right into me? Power from the sun.
Le premier album de Tyreek McDoll, Open Up Your Senses.
Et on va ouvrir nos sens juste avant 10h, tout à l'heure pour notre choix musical avec Lisa Giroldini. En studio, merci Marion Casanov pour le journal sur RFI. 7h13 à Paris, bonjour à vous, bienvenue ce matin au programme de notre tour du monde de l'actualité, le Proche-Orient, alors que les pourparlers en direct ont repris au Qatar pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou est à Washington. On va aussi parler ce matin de l'Ukraine, du Cameroun également, et cette question, le président Paul Biya sera-t-il candidat à la présidentielle d'octobre prochain? On en parle aussi avec notre grand invité Afrique, et c'est le sujet d'appel sur l'actualité à 8h10, temps universel tout à l'heure. On revient également ce matin sur cette attaque menée par un gang armé au siège de la commission kényane des droits de l'homme à la veille du Saba-Saba, la commémoration annuelle des manifestations pro-démocratie des années 90. On en parle dans nos éditions africaines ce matin. RFI en tenue d'été dès aujourd'hui et pour les 2 prochains mois au programme des séries de reportages. L'une d'entre elles a écouté juste avant 10h consacrée aux objets de pouvoir qui ont marqué l'histoire du continent. Et puisque c'est l'été, on part ce matin en Côte d'Ivoire sur la plage de Grand Bassam aux côtés de la protection civile qui patrouille pour éviter tout risque de noyade. Elles sont très nombreuses, trop nombreuses chaque année.
Et ils pensent qu'on ne veut pas qu'ils nagent, c'est pourquoi on les empêche. On continue tous de les sensibiliser, en tout cas de les faire comprendre que c'est pour eux-mêmes leur propre bien. Parce que quand ils se noient une journée comme ça, c'est comme si on n'a pas bien fait notre travail.
Reportage à écouter dans nos éditions africaines ce matin. RFI, l'été comme l'hiver, c'est aussi vos grands rendez-vous habituels jusqu'à 10h. Le sport, la presse, belle journée à vous. Bon réveil sur la Radio du Monde.
RFI Matin.
Et d'abord, pour débuter notre programmation d'été sur RFI, premier épisode tout de suite d'une série spéciale à découvrir dans les deux prochaines semaines. Quand l'histoire bascule, c'est le nom de cette série qui nous raconte des événements qui ont transformé, bouleversé l'histoire du monde depuis 1945. Aujourd'hui, direction Haïti. Ce lundi 7 juillet marque le 4e anniversaire de l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Un mois plus tard, le 14 août, un séisme de magnitude 7,2 tuait plus de 2000 personnes. Marine de la Moissonnière revient pour nous sur cette période dramatique qui a plongé tout un pays déjà fragilisé par les catastrophes naturelles et la pandémie de coronavirus dans une crise multidimensionnelle et internationale.
Des maisons détruites, des habitants désemparés. Sur les réseaux sociaux, des Haïtiens postent des vidéos qui témoignent de l'ampleur des dégâts. Dans la commune des Anglais, l'église s'est effondrée, comme le raconte le père Wilson Exantus Antoine.
Il y a plein de monde qui était en bas des combres, mais heureusement...
Beaucoup de personnes étaient sous les décombres, mais heureusement, nous avons une compagnie taïwanaise qui travaille à la construction d'un pont à l'entrée de la ville. Alors on a immédiatement fait appel à eux et ils nous ont aidés avec la population à retirer beaucoup de gens des décombres. Malheureusement, nous avons tout de même 17 ou 18 personnes qui sont mortes dans l'église et ce sont une majorité d'enfants. La victime la plus âgée avait seulement 24 ans.
Au total, plus de 2200 personnes sont mortes, 12 000 blessées. Les hôpitaux ont été très vite saturés. Reportage à Port-Salut d'Amélie Baron.
Le personnel que j'ai rencontré, avec quelques infirmières et une sage-femme notamment, m'explique qu'elles font leur possible pour prendre en charge tous ces blessés, des personnes avec des traumas, des fractures. Il y a eu aussi une femme qui était enceinte de plusieurs mois qui a perdu son bébé. Donc toutes ces personnes sont dans des conditions très précaires, allongées, parfois même le sol, donc en extérieur.
Faire parvenir de l'aide aux sinistrés est un véritable défi, car déjà à l'époque, les gangs contrôlent certaines zones, comme l'unique route menant de Port-au-Prince au sud, le tout dans un contexte de récession économique et de crise politique profonde.
RFI, édition spéciale.
La capitale haïtienne qui s'est réveillée sonnée abasourdie par cette nouvelle. Donc le président Jovenel Moïse assassiné cette nuit.
Un mois avant le séisme, le 7 juillet 2021, l'autoritaire et impopulaire président Jovenel Moïse a été assassiné chez lui en pleine nuit. Un crime jamais vraiment élucidé et un choc pour les Haïtiens.
En fait, les gens voulaient son départ, mais personne n'avait envisagé sa mort. Quand même, c'est un président et se faire assassiner pendant qu'on est au pouvoir en politique, ça dit beaucoup.
Sentiment partagé par Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste.
En réalité, c'est un gros saisissement, comme on dit en Haïti. Personne ne s'attendait à une nouvelle de ce genre. Et pour le moment, on a peur du basculement dans un sens ou dans l'autre de la situation en Haïti. Les institutions démocratiques sont décapitées. Il n'y a pas de succession prévue dans la Constitution pour ce qui se passe là maintenant. Et pour le moment, on attend, c'est l'incertitude.
Assurant l'intérim présidentiel, le Premier ministre Ariel Henry ne parviendra jamais à remettre Haïti sur les rails. Profitant du vide politique, les gangs gagnent de plus en plus de terrain, semant la terreur et la désolation. Les États-Unis poussent Ariel Henry à la démission en mars 2024. Il laisse sa place à un conseil présidentiel de transition qui, lui non plus, ne parvient pas à redresser la barre. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle en Haïti depuis 2016. Le déploiement depuis un an d'une force de sécurité multinationale emmenée par le Kenya n'a pas permis de ramener le calme. Les gangs contrôlent aujourd'hui presque la totalité de Port-au-Prince et plus d'un Haïtien sur deux souffre de la faim.
Quand l'histoire bascule, premier épisode de cette première série d'été à découvrir ces deux prochaines semaines sur RFI et sur RFI.fr. Demain, on va encore plus remonter le temps jusqu'en juillet 1953 à Cuba. RFI Matin dans une dizaine de minutes, l'information africaine et dans une heure, notre grand invité international. Bonjour Daniel Valot.
Bonjour.
10% de droits de douane de plus à tous les pays qui s'aligneraient sur les politiques anti-américaines des BRICS. C'est la menace brandie par le président américain alors que le groupe des 11 pays émergents sont réunis en sommet à Rio de Janeiro au Brésil. Daniel, vous allez en parler avec votre invité ce matin, l'économiste bissao-guinéen et en ancien diplomate onusien Carlos Lopez.
Oui, Carlos Lopez, professeur à l'université du Cap et ancien secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Nous lui demanderons quelle pourrait être la réponse des pays émergents face à cette nouvelle menace brandie par Donald Trump. Comment les pays du BRICS se positionnent vis-à-vis de ce que certains dénoncent au mieux comme un chantage, au pire comme un diktat commercial. Et nous verrons quel est le poids économique et géopolitique aujourd'hui des BRICS, un groupe qui s'étoffe. Il est passé en 2 ans de 5 à 11 pays. Cet élargissement va-t-il renforcer ou affaiblir au contraire un groupe qui n'a pas toujours brillé par sa cohésion?
A tout à l'heure, Daniel, rendez-vous à 6h20 temps universel pour cet entretien. En France, cela fait une semaine depuis le 1er juillet dernier qu'il est interdit de fumer dans plusieurs lieux publics comme les abribus, les plages ou encore aux abords des écoles. Et peut-être cette mesure servira-t-elle aussi à l'environnement parce que les mégots de cigarettes alimentent le fléau de la pollution plastique. À Paris, les mégots jonchent les trottoirs, alors un plan massif a été lancé et ça passe d'abord par de la sensibilisation. Elisa Savat a enquêté dans la capitale française. Reportage.
Juste à côté du stand des canettes recyclées de l'éco-village, Antoine Guillou, chargé de la propreté de l'espace public, présente les prochaines actions de la ville de Paris contre les mégots de cigarettes.
Effectivement, on voit que sur les mégots, contrairement à d'autres déchets, malheureusement, ça ne progresse pas. Et donc, je crois qu'il y a peut-être encore trop souvent cette croyance que jeter son mégot par terre, parce que c'est petit, parce que malheureusement, encore beaucoup de gens le font. Peut-être que si on a un imaginaire du mégot hérité du cinéma, et je crois qu'il faut vraiment tordre le cou à ces visions-là. Le mégot jeté par terre, c'est pas anodin.
Car tous les jours, rien qu'à Paris, ce sont plus de 4 millions de mégots qui sont jetés par terre. Et pour réduire ce nombre exorbitant, des moyens sont mis en place comme...
La distribution de 400 000 cendriers de poche en partenariat avec les buralistes parisiens qui connaissent évidemment bien leurs clients, les fumeurs. On va aussi déployer des clous par terre à côté des bouches d'égout pour dire que entre la bouche d'égout et le milieu naturel, la Seine, en l'occurrence, il y a un lien et donc jeter son mégot dans une bouche d'égout, en fait, c'est prendre le risque de polluer la Seine.
Sensibiliser tout le monde et parfois de manière ludique, c'est le cas de Mégo, une entreprise bretonne spécialisée dans la collecte et le recyclage de mégots de cigarettes. Maxime Corvez présente des cendriers à question.
Typiquement, il y a un cendrier qui marche plutôt bien, qui met un gros débat au cœur du sujet, c'est pain au chocolat ou chocolatine. Après, on essaye aussi de proposer des thèmes sur la saison. L'hiver, on va jouer sur des plats de saison comme la tartiflette ou la raclette, et l'été plutôt bière au mojito.
Après un processus de dépollution pour enlever les 2500 substances chimiques présentes dans un seul mégot, il est ensuite transformé en mobilier urbain.
On va pouvoir proposer des bancs, des poubelles, des assis debout pour les gares routières par exemple. Et sur la partie goodies, on propose des cendriers de poche, puisque l'idée c'est de capter des mégots à partir de mégots.
Mais au-delà du mégot, il faut aussi sensibiliser dès le plus jeune âge, selon Antoine Guillou, à la consommation de tabac.
Pour nous, évidemment, vis-à-vis des enfants, des adultes aussi, mais avant tout des enfants, c'est évidemment d'abord une politique de santé publique pour évidemment alerter sur l'ensemble des dangers du tabac dans les écoles. Et comme on sait, les enfants sont les meilleurs ambassadeurs auprès de leurs parents, qui sont ceux qui, malheureusement, trop souvent fument et jettent les mégots par terre.
Car un seul mégot de cigarette met 12 ans à se désintégrer complètement et pollue jusqu'à 500 litres d'eau.
Reportage d'Elisa Savat à Paris. À cette menace de la pollution plastique s'ajoute celle du réchauffement climatique, un cocktail particulièrement nocif pour les écosystèmes, notamment ceux des forêts. Pour le constater toute la semaine, Igor Strauss nous emmène dans l'est de la France, les épaisses forêts du Jura à la frontière suisse. Et ce matin, on s'intéresse tout particulièrement au cas du grand tétras, cet oiseau noir, l'un des plus gros des forêts de montagne en Europe, une espèce dite parapluie, c'est-à-dire que sa présence atteste de la bonne santé de la faune et de la flore. Mais voilà, le grand tétras est menacé, d'où notre question d'environnement ce matin. Faut-il le protéger à tout prix? Igor Strauss, reportage.
Le grand tétras est reconnaissable à son chant. et à sa morphologie.
Le grand tétras, c'est un oiseau tout noir. Il a une tache blanche sur l'aile et puis il a des reflets métalliques un petit peu partout, bleu, marron, noir. C'est un gros oiseau très imposant.
S'intéresser au grand tétras, c'est parcourir la forêt et découvrir sa biodiversité.
Ah, c'est beau la forêt comme ça, ah, quand oui, c'est oui, tout en fleurs. Hein.
La phylla, c'est extrêmement riche.
Vincent Gardin est le chargé de mission scientifique de l'association Groupe Tétras Jura et un fin connaisseur des forêts d'altitude.
Là, vous avez des boutons d'or, vous avez plein de fraisiers, vous avez de la myrcille. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des orchidées sauvages, vous avez de l'euphorbe. Ah, oui.
Car le grand tétras dépend exclusivement de la forêt pour son alimentation, des épines de sapin pendant les mois d'hiver, avant le grand festin du printemps.
Au printemps, en été et puis en automne, il va manger plutôt, alors au départ, des bourgeons, que ce soit des petites framboises, beaucoup de myrtilles.
Il est très myrtille.
Ah oui, il est très myrtille, vraiment. Et la myrtille, c'est un arbrisseau qui dépend de la présence de résineux. Et en conséquence, si jamais les résineux venaient à décliner d'un espace, il y aura peut-être moins de sol acide et donc beaucoup moins favorable pour la myrtille. Ça va rendre l'espace beaucoup moins favorable pour tout un tas d'espèces, dont le grand tétras qui raffole de la myrtille.
Protéger la forêt permet donc de protéger le grand tétras. Or,
si on protège le grand tétras, on protège tout un tas d'habitats qui sont favorables à de très très nombreuses espèces, la plupart qui sont soit en déclin, soit sensibles.
Mais depuis les années 80, les effectifs de grand tétras sont en constante diminution. Il restait 278 individus dans le Jura en 2020, soit un déclin de 20% de sa population en à peine 10 ans. Les causes, le réchauffement climatique, une fragmentation de la forêt qui entraîne une destruction de son habitat et une présence humaine toujours plus importante qui effraie les oiseaux. Dès lors, une question se pose, faut-il protéger le grand tétras à tout prix ? Vincent Gardet.
C'est aussi défendable de se dire, je veux qu'une espèce reste présente pour que ces milieux continuent d'avoir une biodiversité extrêmement riche. C'est aussi un autre point de vue qui se défend de dire, on a tout tenté pendant les 20 dernières années pour conserver le grand tétras et malgré tous ces efforts, il y a un déclin qui se poursuit. Et donc, on décide que cette espèce-là n'a peut-être plus sa place au regard des enjeux socioculturels. Et c'est une conclusion qu'il va falloir assumer dans un cas comme dans l'autre.
Dans le Jura, la présence du grand tétras dépend donc des aléas climatiques et de la volonté humaine.
Reportage d'Igor Strauss, RFI Matin, juste avant le prochain journal. Un petit passage par notre playlist du mois. Aujourd'hui, le duo franco-malien Siraba et le titre Tambakele. Elle est par le duo Siraba sur la playlist RFI de juillet. C'est toujours à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Faut rester avec nous. Dans une minute, l'information africaine.
Vitalité Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
drogue et dépendance, mieux décrypter l'addiction aux substances.
Demain,
comprendre et traiter l'éthique et le syndrome de Gilles de la Tourette.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Cet été, le Grand Palais vibre aux couleurs du Brésil. Découvrez gratuitement l'installation immersive d'Ernesto Neto, l'exposition Horizontes. Prenez part au bal brésilien exceptionnel sous la verrière et rejoignez une parade haute en couleurs sur les Champs-Élysées. Un été de fêtes, d'art et de rythme venu du Brésil au cœur de Paris. Programme complet sur grandpalais.fr en partenariat avec France Média Monde.